Depuis le 28 février dernier, les frappes américano-israéliennes. Depuis le 28 février dernier, les frappes américano-israéliennes ont plongé le Moyen-Orient dans un conflit d'une intensité inédite. Avec des opérations qui ont commencé par des frappes ciblées sur des sites nucléaires, les bases de missiles et les centres de commandement iraniens, tout s'est rapidement transformé en une campagne aérienne beaucoup plus large, touchant désormais des infrastructures économiques, des ponts, des usines sidérurgiques et même des sites civils. Ces 15 derniers jours ont été marqués par une escalade continue. Du côté américano-israélien, les bombardements se sont intensifiés sur le centre de l'Iran avec des frappes spectaculaires sur Ispahan, sur un pont majeur près de Téhéran qui a fait au moins 8 morts, ou encore sur les installations industrielles et portuaires. Washington et Tel Aviv affirment dégrader durablement les capacités militaires balistiques de Téhéran, tout en exerçant une pression maximale pour rouvrir le détroit d'Hormuz, pratiquement paralysé. En réponse, l'Iran a multiplié les salves de missiles et de drones, notamment une des plus importantes depuis 3 semaines en direction d'Israël. Les Houthis et d'autres proxys ont ouvert ou renforcé des fronts secondaires, tandis que des attaques ont visé des sites dans le Golfe, faisant craindre des perturbations dans l'approvisionnement mondial en hydrocarbures et dérivés du pétrole, y compris en cas de réouverture rapide du détroit d'Hormuz. Selon CNN, bien que des lancements quotidiens aient considérablement décru depuis les premiers jours de la confrontation, l'Iran serait encore en possession de la moitié de ses stocks de missiles et de drones, permettant la poursuite au rythme actuel des opérations militaires durant plusieurs mois. Sur le plan humain, le bilan s'alourdit, plusieurs milliers de morts au total, les infrastructures vitales endommagées et une économie iranienne sous tension extrême. Sur le plan international, les prix du pétrole flambent, les marchés vacillent et les tensions diplomatiques montent entre Washington et ses alliés européens. Dans son allocution cette semaine, Donald Trump a annoncé la poursuite et l'extension des opérations en minimisant la durée du conflit. Par comparaison, avec une liste de guerres américaines passées ayant duré plusieurs années, ce qui semble mauvais signe. De leur côté, il semble que la Chine et la Russie apportent effectivement une aide en renseignement, mais aussi matériel à l'Iran. Et aujourd'hui, un F-15 américain a été abattu dans le ciel iranien et des affrontements ont eu lieu avec les équipes de secours américaines. Un hélicoptère, notamment américain, a également été touché, mais il aurait réussi à rentrer à la base. Cette guerre offensive américano-israélienne contre le régime iranien est-elle le dernier conflit avant la guerre mondiale ? Ou déjà le premier acte de celle-ci.
Comment ? Vous connaissez pas Philippe Fabry ? Alors là, on pourra dire que vous êtes à l'abri de comprendre les choses, parce que quand une question se pose, avant de foncer la tête baissée sur les réseaux comme des oseaux, on prend une dose d'historionomie. Surtout, n'hésitez pas à en parler à vos amis, ils ont peut-être dans leur malheur le nez collé sur leur bécane à écouter du Salamé ou encore pire du Amir Khan. Pour comprendre le monde, c'est sûr, les analyses abondent, il y a 14 experts à 2,50 m à la ronde, mais quand il s'agit d'expliquer les États-Unis, soudain tout le monde devient hystérique comme par magie, ou au pire ça plagie, on n'aimera pas qu'il régurgite, mais bref, pendant que tout le monde s'agite, avec Philippe on s'assagit, on prend du recul, eh oui, pendant que tout le monde s'engueule, un tel a dit machin, mais qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils veulent? Au lieu de se faire des nœuds au cerveau et de tout compliquer, avec ses modèles incisifs, Philippe peut tout expliquer. Alors prenez un coca, petite étude de cas, Poutine en Europe c'est ambigu, c'est délicat. Ou bien peut-être a-t-on affaire à un impérialiste, un peu revanchard, y'en a quelques-uns dans la liste. Poutine et son livre, il va vous mettre sur la piste, vous aussi bientôt vous pourrez scander Admouline. Plutôt que du bruit diffus, vous verrez des signes, au lieu de dire des âneries et des platitudes banales, ça s'explique par leur stade dans la construction nationale.
Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 3 avril 2026, il est 21h37, bienvenue dans cette nouvelle émission et on fait un petit coucou à Yves qui nous a fait ce générique l'autre jour, qu'il a partagé dans le Telegram, alors on l'a... J'ai voulu lui rendre hommage et ça fait un excellent générique alternatif je trouve pour l'émission. Ce soir, donc, quatrième émission en un mois sur l'Iran, mais je pense que ce serait difficile d'en faire l'économie, parce que comme je l'ai dit en fin d'introduction, la grande question qui se pose avec cette guerre qui dure déjà depuis plus d'un mois, donc, c'est de savoir où est-ce qu'elle va, avec donc Donald Trump qui a eu... minimisé en comparant avec des conflits, je le disais, qui ont duré plusieurs années, mais qui ça envoie effectivement un signal inquiétant. C'est-à-dire, combien de temps est-ce que tout ceci doit durer? Et puis, naturellement, si vous écoutez ce qui se dit dans les médias, ben, c'est encore très très catastrophiste. Moi, j'ai beaucoup écouté cette semaine, je le mets souvent en fond pour essayer de suivre, pas tellement pour avoir des informations, parce que très honnêtement, si sur BFM TV, des fois, on apprend des trucs quand t'es Didier François, mais j'ai l'impression qu'il est de moins en moins, je sais pas s'il fait une dépression à force. Mais après, sinon, l'ambiance est terrible, à la fois sur BFM TV, sur LCI, je crois que c'est même, peut-être même encore pire sur LCI, parce que le niveau des intervenants est encore plus bas. Et tout ça, bien sûr. Et alors, si vous allez sur les médias alternatifs, par contre, vous trouvez la même chose que ce qui se dit dans les médias, parce qu'en fait, c'est à croire que tout d'un coup, les médias mainstream, par détestation de Trump, sont devenus hyper vulnérables à la propagande russe et israélienne. D'ailleurs, on voit des journalistes ukrainiennes qui tapent sur Donald Trump à propos de l'Iran maintenant. Donc, ils ont trouvé une bonne occasion de se venger là-dessus. Mais on va essayer d'analyser tout ça, et surtout d'analyser tout ça sur le plan historionomique, pour savoir ce qu'on peut en tirer, puisque, comme vous le savez, moi... j'ai pas de connaissances de première main, j'ai pas de données exclusives à vous transmettre, je sais les mêmes choses que vous, je dépends autant que vous des médias pour avoir les données. En revanche, ce que j'ai, ce que nous avons, c'est un cadre théorique et conceptuel au prisme duquel on peut regarder un petit peu toutes ces infos en accès libre, donc en open source, et essayer de comprendre ce qu'elles veulent dire, parce que la supériorité de l'historionomie par rapport aux autres analyses, c'est que les autres analyses, elles font avec juste la connaissance des éléments aujourd'hui, elles essayent d'extrapoler, et naturellement, si vous n'avez pas des tendances, si vous n'avez pas des modèles pour analyser les régimes, pour savoir où ça va, etc., pour savoir ce qu'il y a, par exemple, derrière la figure fantasque de Donald Trump, si vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un phénomène de longue durée américain, si vous ne comprenez pas dans quel état est l'Iran, bref, quel est le stade de la construction nationale, comme dit dans la chanson d'Yves, eh bien, je pense que c'est assez difficile de faire des projections. Donc c'est de ça que je voudrais parler ce soir, et notamment parce que c'est une question qui s'est posée cette semaine dans le Telegram, qu'on m'a posée, et j'avoue que c'est une bonne question, qui est de savoir... après tout, même si on sait grosso modo où l'historionomie nous amène sur l'Empire américain et tout ça, ça n'empêche pas de critiquer ce qui est en train de se passer et de savoir si les choses se passent de la meilleure façon possible ou pas. Et c'est une petite question en introduction qui est intéressante parce que ce que j'ai répondu à ça, et je vais probablement le développer dans l'émission de ce soir, c'est que effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ça valait le coup ? Et comme j'ai dit, en fait, ça dépend à quelle échelle on se place. Si on réfléchit du seul point de vue de la question de l'Iran lui-même et de son évolution historionomiquement, je vous ai dit que son régime était à peu près au bord de la fin depuis un moment. Peut-être qu'il lui manquait un affaiblissement des gardiens de la Révolution. Bon, mais dans ce cas-là, à la limite, si c'était uniquement la question de l'Iran lui-même, c'était peut-être pas la peine... d'attaquer, puisqu'après tout, l'URSS, qui était au même stade, s'est effondrée sans qu'il y ait de guerre qui risquait en plus à l'époque d'être nucléaire. Donc est-ce que ça valait le coup d'y aller dans ce cas-là s'il suffisait à la limite d'attendre quelques mois ? Et cela même s'ils avaient massacré une partie de leur population, parce que bon, en attendant, une guerre, on ne sait pas, ça peut faire plus de morts à la fin, donc il y a un aléa qui est risqué, moralement. Bon. Et effectivement, très honnêtement, s'il n'était question que de l'Iran, je vous aurais dit oui, effectivement, à ce moment-là, il valait mieux attendre un effondrement purement interne de l'Iran, ne rien faire, ça aurait été plus sage. Le problème, c'est que ce n'est pas que l'Iran. Puisque, comme vous le savez, puis j'en parle depuis le début de la chaîne en fait, et même depuis avant le début de la chaîne, la question c'est la confrontation qui vient, la confrontation mondiale, avec d'un côté les États-Unis et leurs alliés, pour certains qui sont de plus en plus fragiles, et de l'autre côté avec le bloc essentiellement russo-chinois, mais dont font partie la Corée du Nord et l'Iran. Et naturellement, dans cette perspective, vous vous posez la question de savoir, il faut se poser la question de savoir si ça valait le coup d'attendre effectivement que l'Iran tombe tout seul. Est-ce que ça ne risquait pas d'amener la chute ou la confrontation avec l'Iran qui devait avoir lieu, je vais y revenir dans un instant, ça risquait pas de la faire arriver au pire moment, alors qu'il y aurait déjà des ennuis, je sais pas, à Taïwan, dans les pays baltes, des choses comme ça, face à la Russie et aux Chinois. Ce qui aurait rendu la situation stratégique occidentale et américaine particulièrement difficile. Et je rappelle que les Américains ont une certitude, en fait, de ce que la confrontation vient. Donald Trump a adressé son budget présidentiel au Congrès, donc sa proposition, ses demandes pour un certain nombre de postes de dépenses, et notamment sur le budget militaire américain. Et il a confirmé ce qu'il avait déjà simplement évoqué au mois de janvier, c'est-à-dire qu'il demande pour l'année prochaine un budget de 1500 milliards de dollars. 1500 milliards de dollars, ça fait plus 50%. Alors, si vous voyez ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup de commentateurs qui vont se dire « Ah ben c'est parce qu'en Iran, la situation se complique, donc machin. » Mais en fait, non, puisqu'il l'avait déjà dit début janvier, au moment où il n'y avait pas ces problèmes-là. Donc pourquoi ? Donc si Donald Trump veut une augmentation de 50% du budget militaire tout d'un coup comme ça, c'est parce qu'il a des infos qui montrent qu'il y a ce risque de confrontation qui arrive. Donc il faut se renforcer très rapidement. Donc il y a cette connaissance-là américaine. Et donc la décision d'attaquer l'Iran se prend dans ce niveau-là. Est-ce que c'est un pari gagnant à la fin ? Pas forcément. Si ça foire, que ça se passe mal en Iran, ça peut amener une complication inutile. C'est-à-dire au lieu de favoriser, une fois que la confrontation démarrera, la position américaine, ça peut faire une confrontation qui démarre alors que les États-Unis seraient déjà éventuellement, je pense pas que ce soit l'hypothèse à privilégier, mais enfin, éventuellement enlisés au Moyen-Orient. À ce moment-là, ça compliquerait plus la situation que ça ne l'arrangerait, évidemment. Donc forcément, c'est un pari là-dessus, mais c'est assez difficile à dire a priori. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est la question de savoir combien de temps il restait aux Américains pour faire cette attaque-là. Et l'autre question qu'il faut se poser, c'est de savoir combien de temps est-ce que ça va durer. Parce que, toujours pareil, moi ce que je vous ai dit, c'est que l'Iran, c'était un régime qui était sur le point de tomber. C'est pour ça que je ne vois pas l'Iran gagner cette guerre de toute façon, ou le régime survivre à la guerre. Si le régime survivait à la guerre, ça veut dire qu'il y aurait un cessez-le-feu et il tomberait quelques mois plus tard. Parce qu'il est à ce niveau-là économiquement, donc pas de raison qu'il survive. Par contre, le problème, c'est que c'est très difficile à ce stade de dire à quel moment le régime tombera. Je veux dire, historiquement, c'est très dur de dire ça avec une marge d'erreur inférieure à 3 mois. Quoi, voyez. Je vous ai dit que, à mon avis, c'était en quelques mois, probablement cette année. Peut-être très, plus rapidement, mais difficile de dire plus. Et le problème, c'est que chaque semaine, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, surtout au niveau du blocage du détroit d'Hormuz, chaque semaine compte et pèse énormément sur l'état général. Et donc, très difficile de dire si ça valait le coup ou pas, a priori. On l'analysera surtout après. Mais quand il s'agit de savoir pourquoi les acteurs se déterminent comme ils se déterminent, il faut bien comprendre qu'il y a ces deux niveaux, voilà, qui jouent. Il y en a un, niveau purement iranien, j'estime insuffisamment justifié le fait d'intervenir pour le faire tomber, parce qu'il serait tombé tout seul, dans la perspective de la confrontation avec la Russie et la Chine, et peut-être le maigre espoir de faire une démonstration de force dissuasive à leur endroit, et donc de baisser le niveau de la confrontation ultérieurement, ça peut valoir le coup. Mais je ne peux pas avoir d'affirmation là-dessus. En tout cas, c'est vraisemblablement dans la perspective que ça vaudrait le coup que les Américains ont décidé d'intervenir. Sachant qu'ils n'ont pas forcément la connaissance historique du truc, hein, évidemment, et le fait que l'Iran est au bord de tomber, mais que les manifestations de janvier ont semblé ouvrir une perspective possible là-dessus. Voilà. Donc, à partir de là, alors avant de partir dans l'analyse véritablement historionomique de la situation, malgré tout, il faut quand même faire un petit point militaire, parce que, à la limite, mon problème avec ce que disent les médias n'est pas tellement leur position sur le conflit. On peut être contre, pour. De toute façon, pour moi, c'est pas la question. C'est pas une question d'être pour ou contre. La question, c'est de dire clairement ce qui est en train de se passer. Et c'est là-dessus que je pense que une forme de... Alors, je dirais pas c'est du pessimisme ou si c'est de l'optimisme anti-Trump, parce que, dans leur perspective, si Trump se plante, c'est une bonne chose. Mais y a une vision du conflit qui me paraît assez faussée là-dessus. Il reste des drones et des missiles, ça c'est sûr, aux Iraniens. Ils en tirent, cette semaine-là, c'était quoi, entre 30 et 40 par jour. Avec un taux d'interception de 90%, ça veut dire qu'il y en a 3 ou 4 qui tapent, en réalité, par jour. Donc chaque jour, on vous montre ce qui a été pété par les 3 ou 4 missiles du jour, mais ça reste assez limité militairement. Il y a cette question du militairement qu'il faut quand même se poser. Parce que avec l'idée que les États-Unis sont en difficulté, quand vous regardez ce qui se passe pour la Russie en Ukraine, et déjà ce qui se passait au bout de quelques mois, de quelques semaines, même quelques jours pour la Russie en Ukraine, ça, c'était être en difficulté. Militairement, les Américains ne sont pas en difficulté. Militairement, ils tapent à peu près partout où ils veulent. La domination est en fait quasi totale. Aujourd'hui, ils ont perdu leur premier avion, un F-15. Il y avait un F-35 qui avait été touché, qui est retourné à la base. Il y a un hélicoptère qui a été touché tout à l'heure, mais qui ne s'est pas écrasé non plus, donc il n'a pas été perdu. Donc après 15 000 frappes, c'est quand même extrêmement limité comme perte. Donc grosso modo, la supériorité aérienne est totale. Il n'y a pas eu de danger sur la flotte. Vous savez, on parlait beaucoup, et c'était les menaces des Iraniens, qu'ils allaient couler le porte-avions, etc. Ils ont visé le porte-avions, le Lincoln, qui s'en est tiré indemne. Donc il n'y a eu aucun missile qui a touché. Donc militairement, il n'y a pas de difficulté côté américain à ce stade. Il n'y a pas une défense antiaérienne qui empêche les Américains d'avoir la suprématie aérienne. Honnêtement, militairement, il n'y a pas de difficulté. Quoi. C'est ça qu'il faut voir. La difficulté, elle est plutôt éventuellement, si vous voulez en voir une, stratégique, en considérant que l'incapacité à réouvrir rapidement le détroit d'Ormuz fragilise la crédibilité américaine, fragilise le système d'alliance américain, introduit des frictions, notamment avec les alliés européens. Là, à ce moment-là, oui. Mais militairement, il n'y a pas de difficulté. En ce qui concerne l'intervention éventuelle de troupes au sol, d'aucuns disent que ça semble écarté par Donald Trump ces jours-ci. Je pense plutôt le contraire. À mon avis, ils n'ont pas déplacé les troupes au sol pour rien, et ils vont finir par s'en servir. La question, c'est pour en faire quoi ? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre, parce que je n'ai pas de certitude militaire. J'ai pas de connaissances techniques suffisantes. J'ai trouvé intéressante l'hypothèse d'Alexandre d'History Legends sur le fait que, je vais vous montrer sur la carte, le fait que les Américains voudraient ça ne s'affiche pas alors que normalement je l'avais calibré, tac, elle est où, zut, ah, il faut que je le ferme dans l'autre, excusez-moi, pour vous montrer l'endroit où ils voudraient éventuellement attaquer. Alors, c'est ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas ça. Ça, c'était mon conducteur de... Rien à voir. Alors, je vais l'avoir. Ma capture de fenêtre. Le bulletin, c'est l'occasion de rappeler que le bulletin de cette semaine est en ligne. Pourquoi je ne vois pas... Qu'est-ce que c'est ce bazar ? Attendez. Voilà. On va recommencer du début, ce sera plus simple. Là. Voilà. Ok. Compliqué. Alors, voilà. Donc, a priori, c'est lui, il les voyait débarquer... Attendez que je vous le montre. Tac, je vais vous le déplacer ici. Il est venu débarquer ici, là, autour du port de Chabar, parce qu'il y a une baie, et donc l'idée, ce serait d'aller plutôt par là. Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit ? Parce que du coup, il faut que je surveille ce que raconte l'Hiromissime dans les... Il y aurait un second près du détroit d'Ormuz, un Thunderbolt, donc. Un A-10 Thunderbolt qui aurait été abattu. Là, vous pouvez confirmer ou pas ? C'est Disclose TV. Ah, c'est le New York Times. Ok. Et le pilote a été secouru. Donc celui-là, il risque pas d'être capturé en tout cas. Donc ça fait deux. Ok. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc il voudrait... éventuellement débarquer par ici, d'après lui, parce que ça ferait une espèce de tête de pont, ça permettrait d'agiter les balouchtes dans cette région, et éventuellement ensuite de poursuivre des opérations plus le long de la côte, plutôt que d'aller débarquer directement du côté des îles, dans l'île de Keshm, etc. Le F-15, il a été abattu dans le Khuzestan, c'est-à-dire par là, et donc c'est là apparemment que les hélicoptères ont été envoyés dans cette région-là pour récupérer le pilote abattu. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? En ce qui concerne les résultats iraniens sur le strict plan militaire, très honnêtement, il n'y a pas de quoi casser trois pattes en canard, même avec un deuxième avion jusqu'à maintenant. Quand vous comparez surtout sur le genre de choses de crainte qu'on pouvait avoir, notamment, alors il est un peu ancien, mais il a été évoqué pas mal avec l'idée Ah oui, il y a Nawax aussi qui était. Oui, mais Nawax était sur une base, c'était pas en vol. Quand vous regardiez si vous comparez tout ça au fameux exercice, je sais pas si vous le. Enfin, je pense que vous le connaissez parce qu'il est assez connu. C'était le Millennial Challenge. C'était un exercice de 2002 qui est assez connu. Vous avez un article Wikipédia dessus, qui était un exercice qu'avaient mené les Américains, qui est connu dans l'histoire militaire américaine parce que c'est un exercice où il avait fallu pratiquement rebidouiller l'exercice en cours de route parce que la marine américaine se prenait une branlée et que ça faisait moche, surtout que l'exercice coûtait plusieurs centaines de millions de dollars. Donc ils avaient été obligés de recommencer. Mais ce qui s'était passé, c'était que le général américain qui était aux commandes de la puissance qui était censé être l'Iran hein, à l'époque, enfin c'était un pays de ce genre-là, mais tout le monde comprenait que c'était ça, qui s'appelait Van Ripper, je crois, avait réussi dès le premier jour, ben justement en utilisant des mesures de guerre asymétriques, en coupant tous ces radars de détection d'approche, en observant les navires ennemis avec des petits bateaux, avec plein de petits bateaux, etc. Il avait réussi à lancer une vague de missiles d'attaque le premier jour, dès qu'il avait compris que la partie négociation du scénario ne fonctionnerait pas. Et il avait réussi à couler 16 bâtiments de la marine américaine. Bien sûr, c'était un exercice, encore une fois, c'est une simulation. Mais forcément, ça avait fait mauvais effet, à tel point que dans la suite, dans les jours suivants de l'exercice, ils avaient été obligés en fait de ressusciter les bateaux parce que c'était tellement hors prévu des scénarios anticipés que le truc ressemblait plus à rien, quoi. C'était une totale déroute. Donc c'était resté ça souvent dans l'idée de ce qu'une puissance asymétrique pouvait faire aux États-Unis. Or là, on a ce conflit donc, qui dure depuis un mois. Et clairement, on n'est pas là au niveau des dommages rencontrés par l'armée américaine. Il faut quand même le dire, hein, voilà, faut quand même le dire pour remettre un petit peu les choses en perspective. Ça ne veut pas dire que tout se passe super bien, notamment parce que l'Iran a adopté une stratégie beaucoup plus politique, c'est-à-dire notamment en frappant sur tous les voisins et en réussissant d'ailleurs à bloquer les flux pétroliers dans l'ensemble du monde et donc en créant une tension internationale extrêmement forte, mais qui est parfaitement cohérent en fait avec ce qui était la stratégie depuis des années de l'Iran. Donc voilà quand même pour la première chose à se mettre en tête pour cette éventuelle intervention, pour le point, on va dire, militaire. Question suivante, est-ce que les Américains peuvent intervenir au sol ? Donc vraisemblablement oui. La question qui se pose, c'est avec quel effectif ? Alors là, bien sûr, on dit qu'il faudrait des centaines de milliers d'hommes pour envahir l'Iran entier, c'est évident. La question c'est est-ce que les Américains à ce moment-là essaieraient d'envahir l'Iran en entier ? Est-ce qu'ils essaieraient de prendre un bout de territoire, par exemple pour faire une démonstration de force contre les Pazarans ? Parce que une partie de ce qui reste de crédibilité à l'armée iranienne, ça peut être justement, ben, en gros, si vous venez pas nous chercher au sol, si vous venez pas au corps à corps, vous pourrez pas nous battre, parce qu'on a toujours des missiles, on arrivera toujours à en balancer quelques-uns par jour, on arrivera toujours à faire du dégât, et ça suffira pour maintenir cet effet asymétrique qu'on obtient en bloquant le détroit d'Ormuz. Donc vous ne gagnerez pas. Et donc, si vous ne gagnez pas, c'est nous qui gagnons, puisque hein, ça a été répété maintes fois par les commentateurs depuis le début. En gros, si les Américains ne gagnent pas, si le régime reste en place, il pourra considérer qu'il a gagné. Donc, dans cette perspective-là, ça peut être un calcul éventuel américain d'envoyer des troupes sur une partie du territoire iranien juste pour se confronter et faire une démonstration de force directement au sol. Voilà, sans vouloir prendre la totalité, mais par exemple en infligeant un revers sur une partie du territoire, s'emparer de cette partie du territoire, montrer qu'ils sont capables de la tenir, et histoire de discréditer un petit peu plus la capacité militaire de l'Iran. À mon avis, il ne faut pas négliger cette idée-là, et donc le scénario d'un débarquement dans le sud-est serait assez cohérent avec cette idée-là. Il faut se souvenir que la toute première invasion de l'Irak, ça s'est fait, il y avait presque 1 million d'hommes au total dans la coalition. Il y avait 500 000 Américains. Donc c'est en 91. Celle de 2003, il y avait plus que 150 000 Américains, et ils ont pris le pays en un mois et demi. L'Afghanistan des talibans, il faut se souvenir qu'ils l'ont pris aussi en un mois à peu près. Ils n'ont pas pris tout le territoire, mais enfin, ils avaient renversé les talibans avec... Il y avait 3 000 Américains, simplement. Donc arriver à obtenir un résultat éventuellement sur une petite partie du territoire iranien et juste faire une espèce de bataille, en fait, avec une partie du corps des gardiens de la Révolution pour montrer de quoi ils sont capables, c'est pas du tout impossible. Et très honnêtement, dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas de gros doute à avoir éventuellement sur la capacité américaine à effectivement obtenir la supériorité dans un combat comme ça. Déjà parce que s'ils débarquaient là, parce que vous avez beaucoup de gens qui disent, regardez en Ukraine, les Russes, ils sont tombés sur les Ukrainiens, ils n'ont pas rigolé avec l'environnement saturé de drones, etc. Enfin, la grande différence, c'est que en Ukraine, cet environnement qui s'est créé, saturé de drones, où c'est pratiquement impossible de bouger où que ce soit sans être vu, etc., ça a été rendu possible par la stabilité très importante du front pendant très longtemps. Donc c'est devenu une guerre de tranchées. Une guerre de tranchées, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se met en place. Premier point. Deuxième point, contrairement aux Russes, les Américains ont la suprématie aérienne. Parce que les Russes n'ont jamais eu en Ukraine. Loin de là. Donc le résultat, c'est que si jamais les Américains débarquent quelque part, ce sera avec full couverture aérienne. Comme c'était le cas jadis en Afghanistan et comme c'était le cas en Irak. Et en général, dans ces cas-là, les mecs en face faisaient pas le poids, quoi. Vous faites rouler dessus par l'aviation. Faut se souvenir qu'avant l'invasion de l'Irak en 2003, les estimations médianes de pertes américaines pour la conquête du pays, ça serait entre 1000 et 2000 pertes côté américain. Les Américains, ils ont perdu 150 bons hommes dans la conquête de l'Irak. En réalité, c'était au niveau de l'estimation la plus optimiste si le régime s'effondrait tout de suite comme ça. Il y avait des estimations, la plupart des experts pensaient que la garde nationale irakienne, notamment, était fanatisée, qu'elle se battrait, qu'elle tiendrait les villes, etc. Bon, ça a quand même été réglé en un mois et demi. Donc aujourd'hui, quand on vous explique que les passes d'Aran, le type se bat jusqu'au dernier, etc., faut toujours être très, très prudent sur ce genre d'affirmation. La vérité, c'est que vous ne savez pas. Avant, vous ne savez pas. Tant que les gens ne se sont pas battus, ils ne se sont pas battus. Et on aura beau dire, pour les Américains, on a une petite estimation de leur valeur, encore une fois, avec les précédents d'Irak et d'Afghanistan, qui sont des invasions à grande échelle, et donc du combat de haute intensité à ce niveau-là. Avec les passes d'Aran, ils se sont battus essentiellement contre d'autres Arabes, enfin non, contre des Arabes, pardon, puisque ils sont pas Arabes, mais en Syrie, en tout cas d'autres Moyen-Orientaux, mais physiquement encore à corps, ils ne sont pas battus avec les Américains, quoi. Donc très honnêtement, s'il y a un débarquement, j'incline à penser que ce ne sera pas forcément... ça veut dire que ça provoquera des pertes supplémentaires du côté américain, hein, sans doute ils s'en sortiront pas indemnes, ils perdront sans doute d'autres avions, surtout des avions en combat rapproché, parce que c'est là que c'est le plus dangereux naturellement. Plus facile de désinguer un A-10 qu'un B-52 qui est en plus haute altitude, puisque c'est le combat rapproché, l'A-10 il arrive, souvent il tire au canon, donc c'est pas la même chose. Donc à mon avis, s'il y a un débarquement américain, ça risque de donner dans ce sens-là. Et je pense que c'est une hypothèse qui n'est pas écartée par Donald Trump. Actuellement, parce que ça ferait partie de l'achèvement de la démonstration de force. Dans l'espèce de récital qu'ils ont donné à Aérien jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore eu cette composante, donc ça ne serait pas totalement surprenant qu'ils tentent quelque chose de ce genre, de ce genre-là. Voilà, mais je ne peux pas en dire plus, et puis les conséquences, ça dépendrait ensuite. Autre petit point intérieur dans l'évolution du pays, parce que ça me paraît important aussi, c'est l'éventuelle division au sein du pouvoir. Son sortie, et vraisemblablement ce que je disais dans le bulletin hier, ça a été validé, c'est avéré. Vous avez un échange qui est sorti dans les médias israéliens, une retranscription entre Massoud Pezeshkian et un des commandant des gardiens de la Révolution, dans lequel Massoud Pezeshkian disait qu'il voulait être lui-même personnellement impliqué dans les négociations avec les Américains, parce qu'il en avait marre et qu'il pensait que l'économie du pays ne tiendrait plus que 3 semaines à ce rythme. Bon, ça, on verra bien. Ça viendra assez vite. Et l'autre, le gardien de la Révolution, lui répondait que c'est justement pour ça qu'il ne le ferait pas participer aux négociations, parce que il lâcherait trop de choses tout de suite. Voilà. Ensuite, Pezeshkian a écrit sa lettre un petit peu au peuple américain pour expliquer, pour parler d'amitié entre les peuples, etc. Mais enfin bon, ça peut autant être de la propagande qu'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump, le lendemain de la publication de cet échange de Pezeshkian avec le Pazdaran, Donald Trump a tweeté en disant que il était en négociation avec le président du nouveau régime iranien, qui était beaucoup plus modéré que les autres. Alors c'est vraisemblablement pas Galibaf qui a priori est pas modéré. C'est tout à fait vraisemblable d'après moi que ce soit Pezeshkian. Notamment parce que, ben, encore une fois, ce que je vous disais dès le début, hein, même avant, j'en parlais déjà l'année dernière, c'est le seul qui est élu là-dedans. En tout cas, c'est celui qui est le mieux élu au suffrage universel direct. Il n'est pas moins bien élu que Macron, vu la participation à l'élection de 2024. Et il ferait un bon Yeltsin, en fait. Et il pourrait éventuellement... Il n'a pas de pouvoir, on est d'accord avec ça, constitutionnellement, mais le pouvoir, ça se prend. Yeltsin n'en avait pas non plus, et il les a récupérés au fur et à mesure de la séquence. Et puis en plus, il y a l'ancien négociateur iranien, Javad Zarif, qui lui-même a publié dans le Foreign Times, aujourd'hui, une série de propositions de paix, qui sont assez raisonnables, hein, côté iranien, qui à mon avis seraient admissibles côté américain, et qui selon lui devraient être donc les fondements d'une éventuelle paix. Et je trouve ça intéressant parce que je pense que c'est assez proche de ce qu'un Pezeshkian serait prêt à concéder, et c'est quand même déjà important. Et en plus, on sait que Pezeshkian, au moins Emmanuel Macron lui a parlé, à 2 reprises, je pense, depuis le début du conflit. Donc, à mon avis, ce canal existe, et donc je continue de favoriser cette hypothèse selon laquelle, à mon avis, il est tout à fait possible qu'à la fin, le nouveau régime, ce soit un régime beaucoup plus classique, dans lequel les institutions civiles reprennent le pouvoir, les passes d'Aran sont évacués, et l'armée, l'Artèche, l'armée régulière, obéit au président. Ça ne veut pas dire que ça se ferait d'un coup. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres possibilités. La possibilité que ça se fasse sur une partie du territoire et qu'il y ait une autre partie qui soit contrôlée toujours par les passes d'Aran. Et donc, à ce moment-là, c'est un scénario de guerre civile. Donc, c'est assez sinistre. Mais voilà, à mon avis, les deux sont possibles. Enfin, voilà pour le point situation militaire. Et sur la situation, on va dire, politique interne, d'après les informations qu'on a. On a également des échos de Mollah qui ne serait pas satisfait de la désignation de Mojtaba et qui est de la prise de pouvoir par les Pazdaran qui, en fait, ne sont pas des Mollahs. Et donc, forcément, semble-t-il qu'il y a un certain nombre de gens que ça gêne. Et qui seraient éventuellement susceptibles de se rallier à un gouvernement alternatif à celui des gardiens de la Révolution. Voilà donc sur le point, on va dire, ce qui me semble être les données du problème actuellement. Vu de manière, encore une fois, rationnelle. Je peux me tromper sur l'appréciation que j'ai des capacités de l'armée américaine ou celle de l'armée iranienne, mais je vous les donne de manière transparente. Après, vous en faites ce que vous voulez, et puis éventuellement, si le reste de l'analyse vous plaît, ben vous recalculez en fonction de ce que sont vos estimations à vous. C'est autant plus simple de faire comme ça. Alors, le point sur lequel je voudrais revenir pour discuter, donc pour savoir, pour essayer d'anticiper ce qui va se passer pour l'Iran, c'est la grande question. C'est la grande question parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que le régime est en bout de course et donc le régime va tomber. Et ça, je renvoie aux précédentes émissions que j'ai faites sur l'Iran à ce niveau-là, je ne reviens pas sur le détail. Naturellement, le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques mois de plus de survie du régime, en l'état actuel des choses, ça peut coûter très cher, notamment à nous, en Europe. Hein. Mais ça peut aussi poser des difficultés politiques éventuellement à Donald Trump chez lui. Ça peut créer des troubles en Asie aussi, parce que là, je renvoie au bulletin d'hier, la situation en Asie est très très compliquée, hein, aux Philippines, au Vietnam, etc. Vous avez des pays qui n'ont plus de pétrole, qui ont déjà des pénuries. Parce que l'essentiel de leur pétrole, à eux, passe par le détroit d'Ormuz, ce qui est moins notre cas en Europe. Donc ça peut avoir des très grosses conséquences. Donc la question de savoir, est-ce qu'on était si près que ça de la fin du régime ou pas? Donc ça, il faut se poser la question. Et je vais y revenir après exactement avec le parallèle historique. Mais d'abord, je voudrais parler de... C'est un petit peu ce que j'ai expliqué chez Bock-Côté l'autre jour, mais j'ai eu que deux minutes pour le dire. Alors je voudrais revenir avec vous... de manière plus longue sur cette question-là. C'est-à-dire qu'est la question de savoir déjà que voulait l'Iran, où est-ce qu'on en était dans l'Iran et comment est-ce qu'on doit appréhender cette campagne. Parce que, à mon avis, une des erreurs principales que les analystes font à propos de cette guerre, justement, c'est de considérer que Donald Trump a démarré cette guerre. Alors qu'à mon sens, quand les historiens reconstitueront ça, ils verront l'offensive depuis le 28 mars comme non pas une guerre, mais la phase finale d'une séquence de guerre, en fait, ou d'équivalent guerre, qui est plus longue, et plutôt comme une offensive, une tentative d'offensive terminale de la part des Américains qu'autre chose. J'explique pourquoi. Alors je rappelle que le régime iranien, le régime Nemollah, c'est ce qu'on appelle un reboot d'ancien régime. C'est-à-dire, c'est une révolution nationale qui s'est déclenchée contre le Shah en 1979, qui aurait dû déboucher, in fine, sur une démocratie parlementaire, que ça n'a pas été le cas parce que, en pleine révolution, c'est-à-dire au moment où il y avait les révolutionnaires radicaux, c'est-à-dire justement les fondateurs de la République islamique qui étaient au pouvoir, l'Iran a été agressé. Et donc, ça a permis de faire corps entre ce régime révolutionnaire qui jusque-là avait une légitimité assez limitée, qui a fait corps avec l'esprit national puisqu'il s'agissait de, c'était l'équivalent de la Grande Guerre patriotique pour les Russes en 1941-1945, c'est ça. Donc ça a recrédité le régime, et à partir de là, une fois la guerre terminée, ça s'est formé comme ce que j'appelle un nouvel ancien régime. Et donc, vous le savez, un nouvel ancien régime, ça se termine sur une nouvelle révolution nationale. C'est pour ça que je dis que l'Iran est au bord de la nouvelle révolution nationale et que c'est ce qu'on voit avec la montée des tensions depuis plusieurs années maintenant, hein, puisqu'il y avait déjà eu le mouvement des femmes en 2023, etc. Bref. Un ancien régime, c'est également ce que j'appelle souvent comme la phase de l'impérialisme initial. Vous savez que l'impérialisme revanchard, c'est celui qui apparaît pendant la Révolution nationale. Mais avant ça, vous avez un impérialisme initial. Et c'est un impérialisme initial qui est détruit, qui donne lieu ensuite à l'impérialisme revanchard. Bon. L'impérialisme initial, il consiste en quoi? Il consiste à essayer d'atteindre une espèce de paroxysme de puissance avec ce que vous avez entre les mains. L'URSS, à l'époque de Brejnev, son but, le but de l'URSS, c'était de devenir la première puissance mondiale devant les États-Unis. Et très honnêtement, alors en interne, ils y croyaient. Il y avait plein de gens, même à l'extérieur de l'URSS, qui y croyaient. Avec, dans les années 70, les années 70, c'est l'apogée de l'URSS. Les années 70, vous avez les accords d'Helsinki, voilà, je cherchais le nom, les accords d'Helsinki qui sont relativement à l'avantage de l'URSS puisque ça reconnaît un certain nombre de frontières qu'ils avaient établies. C'est également la montée en puissance considérable de l'arsenal nucléaire soviétique qui dépasse l'arsenal nucléaire américain, en même temps que du côté américain, c'est... l'après-guerre du Vietnam, c'est justement la perte de l'Iran avec la révolution iranienne, etc. Et ensuite, vous aurez les Russes qui se lanceront en Afghanistan. Et donc, il y avait cette idée chez les Soviétiques, d'ailleurs, quand ils se sont lancés en Afghanistan, de se rapprocher des mers chaudes et finalement d'être bientôt eux les premiers. Voilà, de devenir la première puissance mondiale, même devant les Américains à la limite. En tout cas, ils étaient totalement à égalité, ils n'avaient plus à se sentir en infériorité. C'était ça l'idée qu'il y avait sous Brejnev. Et ça s'est rapidement détérioré dans les années 80, puisque ensuite tout est parti en quenouille. Vous avez eu l'Afghanistan qui est devenu un bourbier, vous avez eu Tchernobyl, vous avez eu l'économie du Japon qui est passée devant celle de l'URSS. Donc les mecs du KGB qui avaient les vrais chiffres, ils se sont aperçus qu'il y avait un petit problème. Et donc voilà. Mais c'est ça qui fait le truc. Autre exemple, parce que je vais y revenir plus précisément sur cet exemple d'ailleurs, cet autre exemple ce soir, c'est l'Empire allemand. L'Empire allemand 1914, l'objectif de guerre de l'Empire allemand, c'était de devenir, en réalité, la première puissance, de ravir la place de première puissance mondiale à l'Empire britannique. De se déployer aussi sur le plan maritime, puisque vous savez qu'avec le lancement du Dreadnought, c'était en 1905, je crois, comme tous les navires de la flotte, il rendait à peu près tous les navires obsolètes par son design. C'était à la fois un triomphe pour la Royal Navy de sortir ce fleuron, mais en même temps c'était une catastrophe parce que tout d'un coup, il suffisait que les autres puissances maritimes copient ce truc-là et ça les mettait immédiatement au niveau de la Royal Navy. Puisque tous les autres appareils étaient obsolètes. Et donc vous avez une course aux armements qui s'est faite comme ça entre 1905 et 1914, notamment naval, entre l'Empire allemand et l'Empire britannique. Et donc ça, c'était le dessein de l'Empire allemand. C'était de ravir la première place, en fait. Bon. Quel était le dessein de l'Iran ? J'avais fait des émissions il y a quelques temps dans lesquelles je vous ai expliqué que le dessein stratégique de l'Iran, dans le cadre de ce qui serait sa confrontation terminale et qui amènerait la chute du régime, c'était vraisemblablement de vouloir expulser du Moyen-Orient la totalité des forces américaines. Éventuellement derrière Israël, mais déjà la totalité des forces américaines, parce qu'avec l'idée que sans les Américains, Israël ne tiendrait pas. Et ce sont précisément les exigences, les buts de guerre qui ont été mentionnés par les Iraniens dans, dans le conflit, là actuellement, hein, si vous noterez. Donc c'est exactement ça. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de devenir enfin véritablement la puissance hégémonique du Moyen-Orient. Et à travers ça, et vous comprendrez que c'est ça en fait le rêve stratégique de l'Iran depuis des années, mais qu'ils ont véritablement essayé de mettre en œuvre à partir 2019, je vais y revenir, c'est de devenir la puissance dominante du Moyen-Orient, et à travers ça, de devenir une sorte de superpuissance asymétrique. Alors je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Alors voyez l'Iran dans sa situation stratégique, d'accord ? Dans les années 2010, il s'est passé plein de choses importantes. D'abord, à la suite de la guerre en Irak, il y a eu l'accroissement de l'influence iranienne en Irak. Il y a eu le début de la guerre civile en Syrie, qui a permis de mettre encore plus Bachar al-Assad dans la main de l'Iran, qui a envoyé là-bas des troupes pour soutenir, et des milices pour soutenir son régime. Et vous avez bien sûr le Hezbollah qui s'est également armé considérablement dans le même temps. Et vous avez eu aussi, tout ça c'est les suites du printemps arabe, vous avez eu la guerre au Yémen avec les Houthis qui sont apparus et qui sont devenus également un proxy de l'Iran. Donc, pendant les années 2010, vous avez eu une montée en puissance considérable de la capacité de projection de l'Iran. Et l'architecte de tout ça notamment, c'était Qassem Soleimani, chef de la force Al-Quds, c'est-à-dire la partie projection, si vous voulez, des Pasdaran. D'accord ? Pendant les années 2010 toujours, il s'est passé quelque chose dont vous vous souvenez, il s'est passé l'émergence de l'État islamique, qui lui-même était la partie révolutionnaire à l'intérieur de la double révolution irako-syrienne, en fait, puisque je rappelle que la révolution nationale, puisque Saddam Hussein, c'était l'ancien régime en Irak, la révolution nationale avait été rendue précoce, prématurée, si vous voulez, par l'invasion américaine de 2003, mais en réalité, les deux pays, je l'ai expliqué dans plein d'émissions ça, les deux pays, la Syrie et l'Irak, grosso modo, sur un tas de sujets n'en forment qu'un. D'ailleurs, avant l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein, il y avait un projet d'union irako-syrienne, c'est le territoire de la vieille Assyrie, hein, donc c'est parfaitement logique. Il y a une continuité nationale, on va dire. Mais bon, les deux sont séparés, notamment à cause de l'ambition de Saddam Hussein, qui voulait préférer être le premier en Irak plutôt que le deuxième en Irako-Syrie. Et donc, ce qu'il s'est passé, c'est que vous avez eu, pendant la révolution nationale irako-syrienne, appelons le phénomène historique comme ça, l'émergence de l'État islamique, hein, qui est un peu les révolutionnaires radicaux, les bolcheviques, si vous voulez, de la région. Ça a conduit quoi ? Ça a conduit, tout le monde a eu très peur, parce que l'Arabie Saoudite, notamment, a eu peur d'être envahie même par l'État islamique, donc tout le monde a eu peur de ça, les Occidentaux ont eu peur de ça, notamment parce que ça, il y avait danger terroriste, donc, que fait-on ? On crée une coalition internationale pour aller taper sur l'État islamique. Et, comme l'État islamique est également un ennemi de l'Iran, parce que l'État islamique était sunnite, alors que l'Iran est chiite, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, grosso modo, on va mettre en veilleuse les crispations qu'on a avec l'Iran, et on va grosso modo les laisser faire ce qu'ils veulent en Irak, du moment qu'on a un ennemi commun, en fait. Sorte d'alliance objective, si vous voulez. Ça fait partie, sans doute, des choses qui ont poussé également Obama à signer l'accord sur le nucléaire iranien. Bien. Donc ça permettait éventuellement de monter en puissance de l'Iran. Arrive Donald Trump qui déchire l'accord sur le nucléaire iranien parce que, d'une part, l'État islamique commençait à se faire étriller, et ensuite parce que pour lui, c'était trop accordé davantage à l'Iran sans avoir obtenu assez de concessions. C'était sans doute aussi l'avis d'Israël, mais je ne pense pas du tout que les États-Unis soient dans la même d'Israël, encore une fois. De toute façon, vous prenez toute l'histoire d'Israël et des États-Unis, vous apercevez que la moitié du temps, les États-Unis empêchent Israël de faire des trucs. Hein. Donc c'est plutôt une espèce de tango que mène chacun en essayant d'utiliser l'autre, plutôt que l'un qui obéit à l'autre, hein, très clairement. Donc, surtout avec Netanyahou. Donc je disais, à partir de là, vous avez donc la guerre contre l'État islamique qui va omnibiler un peu et le danger iranien va passer au second plan, en tout cas pour tout le monde, sauf pour Israël, mais du coup plus personne n'écoutait trop Israël sur la question de l'Iran forcément à ce moment-là. On arrive en 2019. 2019, l'État islamique c'est fini, voilà, l'État islamique est battu, grosso modo. Donc on se retrouve, vous retrouvez avec un Iran qui, en fait, domine donc tout son territoire, qui domine en Irak, dont l'allié domine en Syrie, puisque Assad avait réussi à rétablir son pouvoir, et domine au Liban. Et domine aussi chez les Houthis, n'est-ce pas ? Donc là, à ce moment-là, vous avez un Iran qui est en meilleure position que jamais. Et donc l'Iran peut se prendre à rêver, de devenir cette hyperpuissance asymétrique. Donc que fait l'Iran en 2019 ? Il bombarde des installations, je ne sais plus où elles sont. Bref, c'était quoi ? Comment ça s'appelait déjà ? Je ne les vois pas. Bref, enfin, on s'en fiche de savoir où elles sont. Ils bombardent des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Avec des missiles et des drones. Première attaque combinée de missiles et de drones suicides. À l'époque, personne ne faisait ça. Aujourd'hui, vous êtes habitués, les Russes ils font ça en Ukraine depuis 4 ans, ce sont les Iraniens qui ont inventé ça. Drone suicide plus missile. Il faut se rendre compte de l'arme, l'avance qu'a eu en matière d'innovation les Iraniens là-dessus. Hein. Puisque faut bien se rendre compte que, je fais une petite précision là-dessus, vous avez plein de gens qui disent « Ah, on a sous-estimé les Iraniens, c'est un peuple d'ingénieurs, etc. » En ce qui me concerne, j'ai jamais sous-estimé les Iraniens, hein, en général. Effectivement, c'est un peuple intelligent depuis très longtemps. Il y a même un petit côté fascinant, tellement ça fait méchant James Bond, le côté « on s'enterre partout avec des gigacités tunnels avec des missiles et tout ». Faut avouer que c'est un côté classe. donc, sur ces trucs-là, les mecs, effectivement, ont bien prévu leur coup. Et donc, quelle était l'idée ? Donc, ils ont bombardé ce truc-là en expliquant que c'était les Houthis. Tous les experts internationaux s'accordaient à dire que c'était bien l'Iran qui était à la manœuvre, voire qu'il avait même lui-même tiré certains missiles, vu la direction des impacts. Mais bon, tout le monde a fait comme si c'était pas trop le cas. Les Iraniens ont aussi balancé des drones sur des pétroliers dans le golfe Persique. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire ce qu'ils ont montré qu'ils font depuis 3 semaines, en fait, si vous voulez. Depuis un mois. C'est-à-dire que frapper les voisins, les installations pétrolières des voisins et menacer les bateaux dans le détroit d'Ormuz, Ils l'ont fait en 2019. Tout le monde a oublié ça, parce qu'après, il y a eu le Covid et tout, c'était la folie. Mais il faut se souvenir de ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2019, avec cette action-là, les Iraniens montrent qu'ils ont des moyens nouveaux. Ces moyens, c'est proxy, les outils, plus... Et puis leur milice en Iran, bien sûr, en Irak. Et puis le Hezbollah, tout ça, c'est des milices, quoi, et en Syrie. Donc, proxy, plus missiles, puisqu'ils développaient des missiles activement, plus les drones. Donc ça, ce sont les moyens qu'ils avaient, moyens conventionnels, de dominer la région, de montrer à l'Arabie Saoudite qu'ils pouvaient lui taper dessus, et qu'ils osaient lui taper dessus, et qu'ils pouvaient le faire en plus en se cachant derrière un proxy en disant que c'était pas eux. Et donc ils montraient qu'avec ça, qu'avec ces moyens, ils pouvaient bloquer le détroit d'Ormuz. Aussi menacer celui de Bab el-Mandeb, puisque à Bab el-Mandeb, ils avaient les outils en surplomb, d'accord ? Donc à partir de là, vous voyez quelle était la stratégie qui se mettait en place. La stratégie qui se mettait en place, c'était un Iran capable, grâce à des moyens conventionnels en plus, de menacer la totalité des installations critiques pétrolières de ses voisins, qu'il était capable d'assumer de taper sur l'Arabie Saoudite, donc une menace de guerre, hein, tout simplement. Une Arabie Saoudite qui avait été à la peine déjà contre les Houthis, qui n'avait pas réussi à les réduire au Yémen, donc qui était déjà un petit peu fatigué par des années d'opérations. Donc il n'avait plus envie de se taper. Et montrer qu'il était capable de contrôler les détroits éventuellement par ces moyens-là. C'est ça que je veux dire par l'idée d'une superpuissance asymétrique. C'est-à-dire que l'Iran avait parfaitement conscience qu'il n'aurait pas le niveau de PIB de la Chine ou des États-Unis. Ni même les mêmes moyens conventionnels, mais qu'avec ceux qu'ils avaient, eux, leur positionnement géographique et les alliés qu'ils avaient distribués dans la région faisaient qu'ils avaient la capacité, enfin, en tout cas, c'était ça l'objectif, de devenir un pays capable de contrôler tous les détroits dans la région et d'être l'hégémon dans la région. C'est ça la stratégie du régime iranien. Et bien sûr, la clé de voûte, l'aboutissement de ce plan, c'était d'avoir l'arme nucléaire, parce qu'en plus, s'ils pouvaient sanctuariser leur territoire, ben à partir de là, c'était jackpot, c'était terminé. En gros, l'Iran ne serait jamais une superpuissance réelle, on va dire, mais il serait désormais une superpuissance asymétrique, c'est-à-dire capable de contrôler le Moyen-Orient. Il serait la première puissance du Moyen-Orient et il aurait pu parler sur un pied d'égalité avec les autres plus grandes puissances du monde. Et notamment, au passage, être peut-être encore plus menaçant avec l'Europe qu'avec les États-Unis. Hein. Et en plus, dans ce calcul-là, et je lisais, je ne sais plus de qui, un post très intéressant qui faisait le parallèle avec la Corée du Nord, qui expliquait que ça permettait, en frappant l'Arabie Saoudite, il permettait de reproduire ce qu'on avait appelé le problème de l'otage de Séoul. C'est-à-dire que les Américains ont eu plusieurs fois la volonté d'aller frapper le programme nucléaire nord-coréen pour les empêcher d'avoir l'arme nucléaire. Vous savez, vous avez dû tous vous être demandé, mais comment on a laissé les Coréens de posséder l'arme nucléaire ? Alors, des fois on disait parce qu'ils étaient allés avec la Chine à côté. Bon, mais quand même. Mais la réalité, c'est qu'en fait, les Nord-Coréens, très rapidement, se sont rendus conventionnellement capables d'écraser Séoul, en tout cas de bombarder massivement Séoul, avec leur artillerie. Et donc à partir de là, les Américains savaient que si jamais ils attaquaient le programme nucléaire nord-coréen, ça serait des bombardements conventionnels sur la Corée du Sud. Et ça, la Corée du Sud n'en voulait pas, et personne ne voulait non plus de déstabilisation mondiale avec ça. Donc plusieurs fois, les Américains ont renoncé, semble-t-il, sous Clinton et sous George Bush, W. Bush. Sur l'idée d'aller taper sur la Corée du Nord. Et donc l'Iran avait la même idée. En fait, l'Iran, c'est avec nos missiles et nos drones, on est capable de taper l'Arabie Saoudite. On l'a démontré, puisqu'ils l'ont fait, encore une fois, en 2019. Donc, ça protégera notre programme nucléaire, qu'on va relancer à fond. On va s'armer nucléairement. Ils n'oseront pas nous taper dessus, taper nos installations nucléaires, parce que sinon, on fera tout ça. Ces bombardements conventionnels sur les voisins. Et puis quand on aura l'arme nucléaire, là, c'est jackpot parce que, encore une fois, sanctuarisé, etc. Bon. Donc ça, c'était le plan. Ce qui n'empêche pas que, selon moi, de toute façon, le plan ne se serait jamais réalisé, parce que ils auraient fini par subir une révolution interne. Bon, mais c'est comme l'URSS. Hein, ça, l'arme nucléaire n'a pas empêché l'URSS de s'effondrer. Mais c'était le plan, voilà. Disons, c'était le plan qu'avaient les Iraniens en tête. Et donc, en fait, pour moi, la séquence donc militaire qui commence, c'est-à-dire l'affirmation d'hégémonie de l'Iran sur la région, c'est avec cette attaque contre l'Arabie Saoudite en 2019. Sauf que cette attaque contre l'Arabie Saoudite, elle a donné lieu juste après à une réaction américaine, qui a été le fait de éliminer Soleimani en Irak. Hein, c'est ce qu'a fait Donald Trump. Alors l'attaque, c'était mi-septembre contre l'Arabie Saoudite. Et Donald Trump a fait éliminer Soleimani le 3 janvier 2020. Bon. Peut-être que ça aurait été plus loin, mais ensuite, tout le monde a été plongé dans la pandémie. Ça a été le cas de l'Iran lui-même, si je me souviens bien des informations, assez durement au début. Donc tout ceci, c'est un peu, vous savez, hein, le monde s'est mis en pause pendant un moment. Et donc, il n'a plus été question de rien. À partir des années... enfin, malgré tout, en 2020 et 2022, enfin, jusqu'en 2022, il y a eu de très régulières frappes de missiles sur les installations américaines en Irak. Et ces frappes de missiles étaient faites par les milices pro-Iran en Irak, mais bon, on sait très bien qui c'est qui les armait. Donc, déjà à cette époque-là, l'Iran continuait de poursuivre son but qui était de harceler les Américains pour les faire partir. Avec l'idée, en gros, que la présence américaine au Moyen-Orient est le dernier obstacle à cette volonté iranienne de domination. Parce qu'en gros, si les Iraniens arrivaient à faire partir les Américains du Moyen-Orient, les autres autour auraient peur de l'Iran et donc l'Iran, la domination iranienne sur le Moyen-Orient serait sans partage. C'est la stratégie, encore une fois. Et encore une fois, je dis, c'était une stratégie qui n'était pas bête du tout. C'était, avec les moyens qu'avait l'Iran, c'était bien joué. Et ils se sont donné des moyens considérables, on le voit aujourd'hui, avec toutes les villes souterraines, les installations enterrées, etc., qu'ils ont. Et donc le plan était pas mal emmanché, en fait, quand vous y pensez, de cette façon-là. Sauf que y a eu un dérapage. Et le dérapage, précisément... est venu de là où il l'attendait pas. Il l'attendait tellement pas que d'ailleurs, quand ça s'est passé, vous savez, vous avez plein de gens qui ont dit « Ah, c'était l'Iran qui était derrière l'attaque contre Israël du 7 octobre par le Hamas ». Moi, vous regarderez les vidéos qu'on avait fait à l'époque. J'avais dit que, a priori, je pensais pas que c'était les Iraniens qui avaient voulu ça. Alors, ce qui me... À la limite, j'aurais pu vouloir que ce soit les Iraniens qui avaient fait ça, parce que ça aurait été cohérent avec mon idée que, y a un moment, en tant que régime vieillissant, ils devraient déclencher une guerre comme les Allemands en 1914, etc. Ou comme les Soviétiques en 1979 en envahissant l'Afghanistan. Ils devaient faire ce genre d'erreur. Bon. Mais les informations ne montraient pas que c'est le cas, et effectivement, ce n'était pas le cas. C'était pas les Iraniens qui ont demandé au Hamas de faire quelque chose. Il y avait peut-être, dans les plans qu'avait l'Iran à long terme de domination, il y avait peut-être, et même probablement, l'idée qu'un jour, ils feraient une attaque coordonnée avec le Hamas, avec le Hezbollah et avec leurs propres missiles contre Israël pour rayer Israël de la carte. Il y avait peut-être cette idée-là. Mais c'était, en tout cas, ce n'était pas prévu là. Et ils n'ont pas piloté le Hamas pour le faire là. Ce qui s'est passé vraisemblablement, à mon sens, c'est que les mecs du Hamas, eux, ont vu le progrès dans la domination régionale de l'Iran. Ils constataient au lendemain, quelques années après, enfin, ils ont constaté le progrès des frappes. Parce que je rappelle qu'en 2023, il y avait déjà des discussions, éventuellement, pour le retrait, l'achèvement du retrait américain de l'Irak. Donc, je vous ai dit, le reste, la Syrie, le Liban, tout ça était bien en main pour l'Iran. Et donc, les mecs du Hamas, ils se sont dit, en fait, on va déclencher le truc. Maintenant, on a un protecteur qui est l'Iran, qui est très puissant. On va lancer l'attaque et ça va déclencher la suite de la guerre. Bon. Sauf que les Iraniens n'avaient pas donné leur accord pour ça. Donc c'est arrivé à un moment où ils n'étaient vraisemblablement pas prêts. Ils n'avaient pas envie, c'était pas le moment. Au contraire, il venait de se passer quelque chose d'important. C'était le rapprochement de l'Iran avec l'Arabie Saoudite. Sous égide chinoise, a-t-on dit, mais ça, c'était la suite de 2019. Hein. D'une certaine manière, c'est l'Arabie Saoudite qui reconnaissait les capacités de menace de l'Iran et qui donc laissait tomber, jeter un petit peu l'éponge en disant bon, nous, on va faire du business, c'est OK, on s'entend, on rétablit les accords de coopération, etc. Donc l'Iran atteignait vraiment son apogée de l'influence dans la région. Et là, donc, vous avez le Hamas qui fait ça. Et alors là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pourquoi ? Parce que tout d'un coup, pour Israël, c'est la possibilité d'aller taper sur absolument tout ce qu'ils veulent. Ça justifie tout. En Occident, on n'ose rien dire. On ne va pas leur dire « vous êtes des vatans de guerre », etc. Puis c'est eux qui ont été agressés. Donc c'est franchement, le Hamas, c'est le Hamas qui a foutu en l'air la stratégie iranienne, très honnêtement, sur le coup. Parce qu'à ce moment-là, Israël s'est mis à taper sur partout dans les endroits où ils avaient identifié les menaces. C'est-à-dire, ils ont exécuté leur plan d'élimination de Nasrallah et d'une bonne partie des cadres du Hezbollah avec l'affaire des beepers. Ils ont tapé autant qu'ils ont pu en Syrie pour détruire tout un tas de trucs. Vous avez le régime de Bachar al-Assad qui s'est effondré avec la poussée Jolani, Al-Shara, qui est devenu le président maintenant, qui était poussé lui par la Turquie. Israël en a profité pour détruire la plupart des équipements militaires syriens qui étaient de l'armée syrienne, qui étaient alliés avec l'Iran. Donc, l'Iran a perdu en grande partie la menace du Liban et de tous ses missiles sur Israël. Il a perdu la Syrie, donc tout d'un coup, ça a été un gros recul. Alors il a activé les outils, ils ont bloqué le détroit de Bab el-Mandeb, là aussi un peu trop tôt sans doute, parce qu'il aurait fallu le bloquer en même temps qu'Ormuz, l'idée pour maximiser l'effet peut-être. Résultat, les outils se sont fait taper aussi énormément par Israël et par les Américains, au point qu'ils se sont fait tuer des hauts dignitaires, notamment le Premier ministre, et que donc ils ont fini par faire un cessez-le-feu et arrêter de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb. D'ailleurs, ils n'ont pas recommencé. Là, ça fait un mois qu'ils font des rodomontades. Les outils, ils ont fini par balancer quelques missiles sur Israël, mais ils n'ont toujours pas bloqué le détroit de Bab el-Mandeb. Hein. Ils n'ont pas envie. Ils ont des craintes. Comme d'ailleurs Nasrallah, souvent pour l'Hezbollah, il était quand même pas très chaud pour rentrer en guerre. Hein, on le voyait. C'était relativement limité les interventions qu'il a fait dans la guerre entre Israël et le Hamas, jusqu'à ce qu'il se fasse taper par Israël, en fait, hein, tout simplement. Et ensuite, vous avez eu les échanges de frappes à partir d'avril 2024, entre l'Iran et Israël. Les frappes, donc les échanges de missiles, et l'année dernière, vous avez eu deux séries de frappes, c'était en avril et en octobre, d'Israël contre l'Iran, où là, ils sont allés taper tout un tas de trucs, notamment en octobre, où ils ont sapé beaucoup de défenses antiaériennes iraniennes. Ensuite, il y a eu la guerre des 12 jours, forcément, en juin dernier, qui a encore énormément tapé, et où il y a eu Midnight Hammer, donc opération américaine, qui a détruit le programme nucléaire iranien. Enfin, détruit, on ne sait pas trop. Enfin, il l'a endommagé. Donc, tout ça pour dire que, si vous vous refaites la séquence dans votre tête, ça veut dire qu'en 2019, vous avez l'Iran qui lance des opérations contre ses voisins pour établir son hégémonie sur le Moyen-Orient. Ces opérations se poursuivent à bas bruit pendant 3 ans. Ça aurait dû continuer vraisemblablement à bas bruit, ça dérape avec l'histoire du Hamas, mais qui est malgré tout une conséquence de la politique iranienne, parce que si le Hamas a fait ça, c'est parce qu'il pensait qu'il serait backé par l'Iran, et donc c'était lié à la force montante de l'Iran et au fait que l'Iran soutenait le Hamas. Donc c'était pas une responsabilité directe de l'Iran, mais en fait c'est un peu un résultat de son jeu régional. Et là, patatras, vous avez donc la guerre qui monte d'un cran, puisque vous avez Israël qui est directement impliqué. Et là, ça commence à être recul sur recul sur recul de la part de l'Iran. On perd le Liban, on perd la Syrie, les Houthis se font taper aussi. On commence à se faire bombarder à domicile, carrément, à se faire bombarder de plus en plus à domicile, parce que la guerre des 12 jours, c'était encore un autre seuil franchi par rapport à 2024. Et là, vous avez Donald Trump qui propose, qui essaie de remettre les négociations en disant c'est pour ça qu'ils ont compris, ils ont pris plein la gueule, on va négocier. Bon. Sauf que les Iraniens refusent de lâcher leur rêve de domination régionale. Et donc leurs exigences, c'est toujours les mêmes. Retrait de toutes... Ils s'accrochent au truc. Retrait de toutes les bases américaines, etc. Ça reste très maximaliste. Et tout ceci, toute cette période-là, je rappelle, a été émaillée régulièrement de manifestations contre le pouvoir iranien en interne. Donc en plus, une fragilisation du régime. C'est normal, puisqu'il est de plus en plus délégitimé par le fait que tout le pognon qui était dépensé à l'extérieur pour cet impérialisme finalement iranien, et qui est pris au peuple iranien, ça, au bout d'un moment, si quand vous voyez les résultats et que le reflux est partout, ça donne pas envie, quoi. Simplement, donc les Iraniens veulent pas. Donc à ce moment-là, ça débouche sur quoi ? Ça débouche sur une nouvelle intervention de Donald Trump, qui là est en fait un peu une offensive terminale, peut-être pas encore tout à fait terminale. Une offensive terminale, ça pourrait être une offensive au sol, mais enfin, c'est encore une échelle. Mais si vous le regardez comme ça, vous ne pouvez pas dire simplement c'est une guerre déclenchée de nulle part par Donald Trump. C'est pas ça qui s'est passé. C'est toute une séquence, une guerre qui a duré d'une certaine manière déjà 7 ans, et en tout cas qui a été très chaude pendant déjà 3 ans, et au terme de laquelle on arrive. Alors pourquoi ça me paraît important de souligner ça ? Parce que je pense que au moment d'interroger la fragilité réelle et la maturité pour la chute de l'Iran, c'est ça qu'il faut constater. Parce que sinon j'allais vous dire, si la guerre venait de commencer véritablement maintenant, et qu'on prenait comme exemple l'entrée en Afghanistan de l'URSS ou le début de la guerre de 14. Bah à ce moment-là, on dirait, oui, donc il y en a pour plusieurs années, à minima, avant qu'il y ait l'équivalent de la révolution allemande, ou même ne serait-ce que de la perestroïka, en 1985. Il restera 4-5 ans, quoi. Hein, ça fait long. Hein. Si on doit partir là pour 4-5 ans, ça va être très long, on va le sentir passer sur le pétrole. Bon. Et au niveau militaire, on peut avoir l'impression que c'est ça. Et donc là, je vais essayer de venir véritablement sur véritablement les comparaisons historiques. C'est que, à la fois, ce que vous voyez, c'est que, au niveau de la guerre régionale, donc de cette guerre régionale, de cette guerre finale d'impérialisme initial, qui aurait commencé donc depuis 2019, même 2019 ou 2023, ce que vous voulez, ça serait l'équivalent du début de la guerre mondiale. Donc effectivement, c'est pas très loin. Mais en même temps, ce que l'on voit sur les manifestations, et en particulier les manifestations de janvier, ça, ce sont des choses qu'on a vues plutôt à la fin de la guerre, du côté allemand. C'est ce qu'on a vu en 1918, avec le début de la grève générale en janvier, où vous avez eu, je vous en avais parlé récemment, vous avez eu donc une grève générale qui s'est déployée avec des centaines de milliers de grévistes dans l'ensemble du pays. Et puis vous avez le pouvoir qui a réussi à casser la grève et qui a arrêté beaucoup des grévistes et qui les a incorporés dans l'armée. Donc ils n'ont pas été butés comme ça a été le cas des gens qui ont été massacrés en Iran en janvier, mais on les a envoyés à la mort sur le front. Hein. Donc c'est tout comme. Voilà ce qu'avait fait l'Empire allemand. Et donc et ça, c'était en janvier. Et donc vous n'avez eu de la révolution allemande, ça n'a été vraiment que quelques mois plus tard, à la fin de l'année, en novembre, octobre-novembre. Mais c'est déjà beaucoup plus la maturité, puisqu'on est déjà en 1918, que si vous prenez 1914. Et il y a autre chose qui est intéressant, c'est que, bon, si on prend cette question des manifestations, on était grosso modo à 6 mois de la fin du régime. Et encore une fois, je le répète, 3 mois, ça change dans la situation dans laquelle on est. Si ça se maintient pendant 3 mois, ça nous coûte cher. Hein, donc ça change beaucoup de choses. Mais il y a autre chose qui est la crise. La crise interne du pouvoir. Parce que vous voyez actuellement, et ça a été dit, beaucoup commenté, où on a dit que, oui, mais regardez, c'était bien la peine de faire tomber Khamenei et le régime des Mollahs, comme on dit, si c'était pour le remplacer par des types beaucoup plus radicaux qui sont les gardiens de la Révolution. Et qu'en fait, c'est une militarisation du régime avec les gardiens de la Révolution qui ont pris le pouvoir, c'est ça l'idée. Bien. Sauf que ça s'est passé, ça, dans l'Empire allemand. C'est ce qu'on appelait le régime des Dioscures. Les Dioscures, c'est Castor et Pollux dans la mythologie grecs. Ces deux frères héroïques, si vous voulez. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'était le nom qu'on donnait de manière amusante à Hindenburg et Ludendorff, qui sont en fait devenus les vrais dictateurs militaires du pays à partir de 1917. Que s'est-il passé en 1917 ? Vous avez eu une crise en juillet 1917 entre le chancelier Bethmann-Hollweg, qui était le pouvoir civil, en fait, hein, qui était toujours, qui dirigeait toujours le gouvernement allemand, et les militaires. Bethmann-Hollweg, il pensait que le pays était au bord de la rupture. Il voyait que la guerre sous-marine à outrance ne fonctionnait pas. Alors ça, c'est très important. La guerre sous-marine à outrance avait commencé la première fois en 1916, je crois. Mais ça s'était vraiment accentué en 1917. C'était quoi la guerre sous-marine à outrance ? C'est vous décidez que une partie de la mer à l'approche des côtes britanniques est une zone de guerre. Et donc que vous coulerez sans sommation tous les bateaux. C'est-à-dire que vous vous défaites du droit de la mer qui habituellement vous obligeait à arraisonner les navires marchands, offrir un abri aux marins avant de couler leurs bateaux, parce que sinon c'était considéré comme crime de guerre. Eh bien, les Allemands ont décidé que désormais ils déclaraient ça la zone de guerre et donc ils couleraient les navires marchands sans sommation. Juste parce qu'ils étaient là. Voilà. C'est ça qui a amené finalement à entrer en guerre des États-Unis. Et donc c'était une décision extrêmement lourde et qui est très très similaire avec ce qu'on voit avec le blocage du détroit d'Ormuz aujourd'hui. Parce que normalement, dans les détroits, on garantit la libre circulation. Bloquer le détroit d'Ormuz, c'est un peu l'équivalent de la guerre sous-marine à outrance, si vous voulez. De la même manière d'ailleurs que le bombardement de tous les voisins là, pour les intimider. C'est l'équivalent de ce qu'ont mis en place les Allemands au printemps 1918 avec ce qu'on appelait les Pariser Kanonen, vous savez, qui étaient ces énormes canons comme la grosse Bertha, qui tiraient à plus de 100 km et qui tiraient directement sur Paris. Ce qui a provoqué un exode rural de la population parisienne qui avait peur de se faire tirer, et ça a quand même tué plus de 250 personnes à l'été 1918. Donc c'était les mêmes stratégies en fait que mettaient en place les Allemands à ce moment-là que l'Iran. Et vous constaterez que cette évolution militaire correspondait à une évolution politique en interne qui était la marginalisation des civils et la prise du pouvoir totale de la branche militaire du pouvoir. Et ça c'est parce que la branche militaire du pouvoir à ce moment-là, Hindenburg et Ludendorff étaient persuadés de pouvoir remporter la guerre encore. Alors que Bethmann-Hollweg, déjà, il disait que ça se passerait pas bien, que les gens qu'on allait manquer de ressources, que l'économie allait se casser la gueule, donc il valait mieux laisser tomber, et surtout qu'il fallait faire des réformes en interne, parce que pour transformer l'Empire allemand en démocratie parlementaire, en fait. C'était ça l'idée. Ce qui sera fait à la Révolution. Bien. Et donc ça, c'est ce qu'on voit actuellement. La prise du pouvoir des gardiens de la Révolution, c'est l'équivalent de la crise de juillet 1917. Donc où là, vous étiez à un an et quelques mois avant la fin du régime, et vous étiez à un an avant la grosse branlée militaire, puisque c'est en août 1918 que le front commence à craquer de partout les alliés commencent à enfoncer véritablement les lignes allemandes. Donc vous voyez, on a plusieurs parallèles sur des événements qui sont à différents stades de la guerre. Mais grosso modo, si on fait le comparatif, on est plutôt vers 1917-1918, quoi. Et ça peut être beaucoup plus accéléré, parce qu'il y a beaucoup de choses désormais. À l'époque, ça dépendait justement de la capacité alliée, parce que qu'est-ce qui a précipité la fin de la guerre ? C'est qu'à partir d'août 1918, donc vous avez les alliés qui commencent à rouler sur les Allemands, littéralement, dans le nord de la France, on recommence à avancer. Et là, c'est panique à bord. Ludendorff et Hindenburg disent « Ah ben, finalement, on ne peut pas gagner, désolé, démerdez-vous. » Ils restituent le pouvoir au Parlement, et à ce moment-là, c'est la Révolution. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer là ? Je ne pense pas que ça mettra un an et demi à attendre que les Américains passent au stade supérieur, surtout si vous avez un équivalent avec débarquement, l'éventuelle attaque au sol d'une partie des troupes américaines dont je vous parlais, ce qui serait l'équivalent de la bataille d'Obrepolieu. qui est en septembre 1918. Vous avez il y avait une vidéo du petit théâtre des opérations d'un audio connard sur là-dessus. Je vous conseille d'aller la voir, qui parlait de la chevauchée de Franché d'Espéré, le général français, qui a lancé donc une offensive en direction de la Serbie, qui est arrivée, et ça a amené la capitulation de la Bulgarie, et ça a précipité en fait l'effondrement du front austro-hongrois au sud. Ça a précipité donc la fin de la guerre pour les Austro-Hongrois et pour les Allemands, qui ont compris que non seulement ils se faisaient repousser sur le territoire français, mais qu'en plus les alliés arrivaient par le sud, notamment avec cette attaque de Franché d'Espéré. Donc on peut envisager qu'une espèce de chevauchée américaine, par exemple dans le Baloutchistan, pourrait avoir le même genre d'effet, de déroute sur toute une partie de l'appareil militaire iranien. Je suis pas affirmatif, mais je dis que dans la structure, si vous voulez, de cette guerre, encore une fois, si vous la prenez sur le temps long et que vous ne considérez pas qu'elle a commencé il y a un mois, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, il faut le voir plus long. Ça a été par intermittence en raison de la situation locale, mais ça a été plus long. Et donc, ça a été plus long aussi dans sa maturation politique à l'intérieur de la société iranienne. Et les soulèvements qu'on a vus en janvier, c'est vraiment des soulèvements de fin de guerre. C'est quand vraiment, déjà, vous êtes à un degré de ras-le-bol qui est déjà pas mal, quoi. Hein, la société allemande, elle subissait les famines. Elle avait énormément de problèmes. En Iran, ils ont des soucis. L'économie, c'est une catastrophe. Vous avez eu des sécheresses catastrophiques l'année dernière. Hein, Pezeshkian en parlait énormément. Ils ont même envisagé de déménager la capitale. C'est arrivé à ce point-là. Donc, pour moi, on arrive à la probablement fin de ça. Donc, je pense que c'est ça qui va se passer, quelque chose de ce genre-là. Encore une fois, c'est très difficile de donner des dates, de dire est-ce que le pari que veut faire Donald Trump, il a dit qu'il se donnait 2-3 semaines de plus. Pourquoi il se donne 2-3 semaines de plus? Parce qu'après, ça fait 60 jours et il va falloir commencer à rendre des comptes au Congrès. Mais en 60 jours, il peut encore se passer pas mal de choses. Et notamment, il peut se passer un début d'intervention au sol. Et puis, il faut bien se rendre compte de ça aussi. En l'état actuel des choses, si Donald Trump s'en tient uniquement à des bombardements et qu'il doit aller devant le Congrès au bout de 60 jours, il est tout à fait plausible que le Congrès lui dise on arrête les frais, on se retire, je sais pas. Je dis pas que c'est ce qu'ils feront, hein. Pas forcément. Ça reste les États-Unis. Il peut y avoir d'autres considérations, notamment le fait de, on peut pas se faire humilier, on peut pas se permettre d'eux. Donc. Mais si en plus, ils ont déjà des troupes au sol et qu'ils ont gratté, par exemple, quelques dizaines ou centaines de kilomètres carrés sur le territoire iranien dont ils seraient rendus maîtres, ça sera beaucoup plus compliqué pour le Congrès de dire éventuellement à Donald Trump, non, on arrête. Parce que là, il y a danger. Donc, il y aura peut-être cette tentation aussi pour ancrer finalement la guerre telle qu'elle est et pour s'assurer que ça aille au bout. Et donc à ce moment-là, moi je pense qu'il n'est pas impossible que la fin du conflit soit si proche. Ce qu'il faut espérer, encore une fois, tout ce qu'on peut espérer à mon avis de mieux pour l'Iran, c'est que les gardiens de la révolution tombent très vite et que, avec le moins de dégâts possible en interne, ça bascule vers quelque chose d'un petit peu plus démocratique autour d'une figure d'un pouvoir civil. Alors, ce qui ne signifie pas que ça sera la fin des emmerdes, hein, parce que le pays peut connaître ces années 90 russes. Hein. En général, c'est ce qui se passe pendant une révolution, parce que vous avez une recomposition totale du paysage économique, etc. Bon. Après, tout dépend. Si jamais les États-Unis arrivaient, notamment à travers le Conseil de la paix de Trump, par exemple, parce qu'à mon avis, c'est son plan, hein, à reconstruire l'Iran derrière, avec l'aide des pays voisins, peut-être que ça pourrait minimiser ces conséquences-là. Mais bon, ça serait quand même très compliqué, parce que ça va à l'encontre d'un certain nombre d'invariants historionomiques quand même assez solides, et l'Iran c'est quand même une grosse masse, hein, à la fois territorialement et en population. Mais bon, peut-être qu'il pourrait arriver à en tirer mieux finalement, et en faire en sorte que l'après-révolution soit plutôt l'équivalent de l'après-1870 en France, et qu'on arrive rapidement à en faire une espèce de Troisième République. Comme ça serait une réplique de Révolution nationale, c'est peut-être pas impossible qu'on arrive à avoir un résultat plus favorable et plus facile que la première fois, alors que 1979, c'était la révolution originelle, finalement. Voilà, donc On verra. Enfin, en tout cas, c'est plausible et à mon avis, ça peut arriver à relativement bref délai, surtout avec une intervention au sol américaine. Et dans cette perspective, et je vais peut-être terminer là-dessus, je pense que l'opinion catastrophiste qui apparaît beaucoup dans nos médias, et encore une fois, que ce soit les médias mainstream ou alternatifs, qui veut que c'est une catastrophe, que Donald Trump risque de devoir finir par partir et tout. D'ailleurs, l'autre soir, juste avant son allocution, l'opinion dominante sur... alors je crois que c'est sur LCI que j'ai vu, c'était... mais apparemment, ça sortait dans la presse américaine, c'est il va annoncer son retrait. Voilà, alors c'était Trump pour louer chicken out, etc. Sauf qu'en fait, il a dit non, on continue. Et c'est que, justement, au printemps 1918, mars-avril, du côté des Alliés, on avait très très peur. Et à Paris, le gouvernement commençait à envisager de se replier vers Tours, notamment par exemple sur la Loire, parce que c'est le moment où les canons, donc la grosse Bertha tirait sur Paris, et où les Allemands avaient réussi à avancer puisqu'ils avaient ramené les troupes de Russie. Et donc, je trouve ça très intéressant que moins de 6 mois, 5 mois, avant la branlée, parce que c'est ça qui s'est passé, hein, que les Alliés ont mis aux Allemands à partir d'août 1918, donc 4-5 mois avant, on pensait à Paris qu'il était possible qu'on perde la guerre. Et qu'on était peut-être sur le point de la perdre, en fait. Vous voyez comme la situation peut être, l'appréciation sur le moment peut être loin de ce que sont en réalité les fondamentaux géostratégiques à ce moment-là. Et donc, voilà, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut voir, enfin, c'est comme ça qu'il faut, qu'on peut essayer d'interpréter les données qu'on a. Voilà. Les données, le rapport militaire effectif qu'on voit, l'éventuelle conséquence d'une intervention au sol américaine, tout ceci me fait penser, malgré tout, encore une fois, que le régime est dans ces derniers temps. Qu'on voit d'ores et déjà le genre de fracture à l'intérieur du pouvoir, qui sont justement celles qui ont lancé la révolution allemande, hein, c'est justement ça, le pouvoir civil qui dit on arrête les frais, on est épuisé, on n'en peut plus, vous les militaires vous n'arriverez pas à gagner, vous dites que des conneries, donc on laisse tomber. On était là. Bon, le truc qui manque peut-être, c'est qu'une partie suffisante des militaires soit persuadée qu'effectivement c'est foutu. Donc peut-être que un débarquement américain pour faire une démonstration de force quelque part. Et encore une fois, bon, je ne suis pas spécialiste de technique militaire, hein, mais quand on voit les états de service de l'armée américaine ces dernières décennies, et les rapports en général dans les guerres dans ces régions du monde, et notamment les ratios de pertes, je pense très honnêtement que... mais je peux me tromper. Ce n'est pas de l'histoire, c'est plutôt du flair et de l'observation au regard de ce qu'on a vu ces 20 dernières années. Je pense que en cas de troupes au sol, les Américains mettront une branlée aux Iraniens. Voilà. À ce qui leur sera envoyé. Pour tout un tas de raisons. Je veux dire, les autres, ils auront pas de couverture aérienne. C'est cauchemardesque de se battre dans ces circonstances-là. Et donc, je ne pense pas, en ce qui me concerne, je ne pense pas que les troupes iraniennes feront mieux, en tout cas pas beaucoup mieux, que les troupes irakiennes en 2003. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Voilà. Et que tout ce qui est dit beaucoup sur « oui, mais le fanatisme, la motivation chez eux, etc. », encore une fois, c'est ce qu'on disait de certains corps irakiens, ça s'est pas vu. Et que même si on le voit, du coup, ils arriveront peut-être à faire un peu mieux, mais matériellement, ça aura toujours des limites. Parce que si les Américains débarquent au sol, les missiles et les drones Shahed, ils n'en feront pas grand-chose de plus que ce qu'ils ont fait maintenant. C'est-à-dire arriver à taper un radar par-ci, un avion arrêté sur sa piste par-là. Mais voilà, ça sera pas... imaginez que les Iraniens arriveront à faire subir aux Américains ce que font subir les Ukrainiens en Ukraine aux Russes, ça me paraît totalement illusoire. Voilà. Mais donc voilà où je pense qu'on en est. Je vais répondre à quelques questions qui ont été posées pendant l'émission, et ensuite derrière, parce que c'est l'émission hebdomadaire, on lancera le live privé des souscripteurs. Je vous rappelle que la chaîne a besoin de votre soutien. On a accueilli plusieurs nouvelles personnes qui se sont abonnées ces jours-ci. Je vais tenter de les saluer. Tout en soulignant qu'il y a aussi des gens qui sont partis, hein, donc on a toujours besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas, soit à venir chercher les contreparties avec l'offre de souscription que je sors habituellement. Je vais peut-être vous la rafficher d'ailleurs pour faire un petit coucou. C'est quoi, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais ça me fait penser aussi que vous pouvez aussi soutenir la chaîne en achetant mes livres, en les lisant, bien sûr, éventuellement en les diffusant autour de vous. Donc on a eu quand même pas mal des gens qui sont arrivés ces derniers jours. Alors sur la semaine passée, nous avons eu Camille Tillier. Quand il y a des chiffres, je ne les dis pas dans les pseudos, parce que c'est trop long. Barça, Ettore, Romain Vasseur, Reasonably Serious, Trobinson, Da Uploader, Equinox Prod, Ewok, Kaz, et c'est tout. Donc n'hésitez pas à venir nous faire coucou dans le Telegram, puisque vous y avez accès. Et n'hésitez pas aussi à aller voir, je pense que c'est pour ça que vous êtes abonné, à aller voir les vidéos passées. D'autant plus que, alors votre société est importante, pourquoi ? Parce que, a priori, peut-être à partir de la semaine prochaine, au mieux, au pire dans 15 jours, je pense commencer à lancer un nouveau format. Donc qui serait une multiplicité de petites vidéos en fait que je ferai plusieurs fois par semaine rapidement pour évoquer ou pour développer un point, une chose dont je parle des fois que sur Twitter ou quoi, mais où je prends un petit peu plus le temps de les développer et où je les enregistrerai. Alors il faut que je me rachète du matériel parce que je le ferai pas ici, je le ferai depuis mon boulot parce que sinon c'est trop compliqué, mais voilà, si c'est que pour enregistrer 10 minutes par jour ou tous les deux jours, ça pourrait être pas mal. Et donc voilà, n'hésitez pas à soutenir parce que bientôt vous aurez du contenu accessible supplémentaire de toute façon via ce mode là encore une fois, j'ai pas de date, mais a priori c'est dans pas longtemps, et puis ça me permettra des fois de rebondir sur un truc sur lequel il n'y a pas forcément matière à faire une émission entière, ou alors où je sais que je ferai pas une émission là-dessus avant un moment, donc ça me permettra d'éventuellement de développer quelques idées, comme ci, comme ça. Bien, alors, voyons ce que l'Iromissi m'a retenu comme question. Ah oui, j'ai oublié totalement parce que je suis pris dans mon exposé ce soir. J'ai oublié de vous dire de mettre des pouces, parce que physiquement, vous avez été plus de 800, et des pouces, on n'en a que 200. Donc, a priori, on doit pouvoir arriver à 400 là, et vous savez que c'est très très important les pouces, vraiment. On a quelques émissions qui ont mieux marché ces temps-ci, et c'était en fait uniquement parce que vous aviez mis, enfin, je pense que c'était largement, parce que vous aviez mis beaucoup de pouces. Donc, c'est juste un clic, faites-le s'il vous plaît. Ça aide, et si vous le voyez en replay, faites-le aussi, hein, c'est l'occasion, poussez, n'hésitez pas. Voilà, j'ai pas pensé à vous le dire avant. Alors, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires ensuite sous la vidéo, c'est bon pour le référencement, et le meilleur com sous le dernier live est, j'en donne lecture à chaque fois, quand c'est une question j'y réponds. Le dernier live, c'est celui concernant les municipales, puisque la semaine dernière c'était le super live privé, qui a duré plus de 3 heures cette semaine, et qui était vachement sympa, comme d'habitude. Je remercie les participants qui sont venus. N'hésitez pas à nous rejoindre là aussi dans les souscriptions, pour si vous voulez participer à ces grands rendez-vous, lors desquels vous venez participer directement à l'émission en vocal sur Discord. Il y a une émission comme exemple dans la liste des essentiels accès libre. Alors, cette remarque qui nous a été faite, c'était un des phénomènes les plus intéressants et la facilité avec laquelle 100% des maires RN... Rassemblement National donc de 2020 ont été réélus. Une fois le blocage levé, le Rassemblement National devient le parti légitimiste du français moyen, sécurité, bonne gestion des fonds, moins de délire sur les subventions aux associations et pour les logements sociaux, et peut-être d'autres qualités que j'ignore mais qui rendent les maires FN inconcurrençables. Mon intuition est que niveau national, le RN va s'installer au pouvoir en devenant de manière organique le parti des blancs face au parti des allogènes. Alors je ne sais pas si ça sera que ça, je pense déjà que ce sera le parti des actifs. Ça peut être le parti des actifs blancs, mais pas que, hein. Encore une fois, y a quand même une diversité qui est représentée même au Rassemblement National, donc je suis pas sûr que... Alors ça peut jouer là-dessus, mais pas que là-dessus, quoi. Donc, alors je sais pas si on a eu des nouvelles pour le Warthog qui a été qui a été abattu, si on a eu des confirmations. Qu'est-ce que tu m'as envoyé d'autre? Depuis le 1er janvier 2026, les jeunes entre 17 et 45, non, enfin pas les jeunes, c'est les hommes entre 17 et 45 ans doivent obtenir un permis de la Bundeswehr pour quitter l'Allemagne. Ben, ça renseignerait le fait que les gens se doutent qu'il va se passer quelque chose. Ah mais c'est ça en fait, d'accord, tous les gens qui nous ont, enfin une bonne partie des gens qui nous ont rejoints, c'était les souscriptions offertes par l'ami Thomas Pariente ce soir. Merci. Et il dit également, Philippe a raison, merci pour le don, Philippe a raison, il y aura tout, Al-César, Al-Netanyahou, tendre baiser à Léo et Denis. Donc pas de nouvelles pour le Warthog, me dit Iruma. Ok, est-ce que nous avons eu des questions via Tipeee? Non plus. Eh bien écoutez, je pense que nous allons en terminer là. J'espère que l'émission vous a intéressé. Ah juste, je vais me faire plaisir et répondre à ce monsieur qui dit comment il sous-estime l'Iran mort de rire. Les talibans ont mis la misère aux USA, ça va être sa puissance 10, trop drôle Fabri. Alors je rappelle que les talibans n'ont mis la misère, n'ont pas du tout mis la misère aux USA. Simplement parce que les USA sont partis, les talibans ont mis la misère aux troupes afghanes qui avaient été finement formées par les USA et qui n'ont pas su tenir le terrain et pas résister aux talibans, ça certainement. Mais c'est parce que les USA sont partis que ça s'est passé comme ça. À aucun moment, vous n'avez eu une déroute, ça n'a pas été la Bérézina de l'armée américaine. C'est juste que le départ a été catastrophique parce que ça a plongé le pays à la merci des talibans, ça, effectivement. Mais ce n'est un problème, les Américains ont des problèmes là où quand ils occupent, donc comme quand ils ont occupé l'Irak ou quand ils ont occupé précisément l'Afghanistan. Si vous vous contentez d'arriver, de faire une espèce de chevauchée à la genre les Anglais, pendant la guerre de 100 ans, vous arrivez, vous mettez une branlée, vous repartez. Les types n'ont pas le temps de vous embêter, quoi. La guerre asymétrique, véritablement, ce n'est possible que quand vous restez là, que vous essayez de tenir le terrain. Là, c'est très pénible et vous perdez des gens et c'est long et ça épuise la population. Si vous arrivez, vous bombardez, vous rasez tout, vous repartez, ça fait pas ça. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est peut-être ce genre de démonstration de force qui va être recherché côté américain. Ceci étant dit, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je dis à tout de suite aux souscripteurs dans le live privé. À bientôt pour un nouveau format et vous laissez pas faire.